C'est une joie vraiment de vivre ce culte avec vous. Je suis personnellement encouragé de voir le monde qui est présent ce matin. On l'a été à Noël aussi. Chaque fois on se dit qu'est-ce qu'on va faire quand ça tombe le jour de l'an et Noël le dimanche. Il y a beaucoup d'églises qui ont reporté, qui ont fait d'autres jours de la semaine. Et nous, avec le conseil spirituel, on a pris cette décision de juste décaler l'horaire et de maintenir. Et je crois qu'on a bien fait, puisque c'est quelque chose qui vous convient et qui nous convient. Parce que je crois que celui qui doit être le premier dans nos vies, c'est Jésus. Amen. Et ce n'est pas un jugement pour ceux qui n'étaient pas là à Noël ou qui ne sont pas là ce matin, qui ont des obligations familiales ou autres, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'eux ne font pas de Jésus le numéro un dans leur vie. Je ne dis pas ça en disant ça. Hein. Mais je crois que quand on le peut, et même si je sais que certains sont couchés très tard hier soir, et ils sont là ce matin, parce que Jésus, c'est leur priorité. Amen. C'est notre priorité. Vous vous rappelez ce que nous avions envisagé pour l'année 2022? Quel était le slogan pour l'année 2022? Le retour à la parole. Il y en a qui ont de la mémoire. C'est bien. Le retour à la parole. On a insisté sur plusieurs prédications. On revenait toujours avec cette image que j'ai envoyée aussi même dans les groupes, etc. Pour bien vous marteler à l'esprit, il faut qu'on revienne à la parole. Alors juste, bilan. Voilà, il y en a qui ne se souviennent même plus. Donc déjà, ça c'est déjà un premier bilan. Et puis pour ceux qui se souviennent, j'espère que vous avez pu progresser dans votre désir de vous approcher de Dieu au travers de sa parole. Amen. Mais on va se tourner vers 2023. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser la parole de côté en 2023, bien sûr. Mais j'ai prié, j'avais plusieurs choses en tête et vraiment le Seigneur, ces derniers jours, a mis ça sur mon cœur. 2023, je l'espère et je veux prier et je veux qu'on prie tous pour ça, sera l'année de la moisson. 2023, année de la moisson, nous voulons le déclarer par la foi. J'aimerais vous rappeler le fondement de la relation entre Dieu et l'homme. Le fondement de la relation entre Dieu et l'homme, quel est-il? N'ayez pas peur, c'est bien. C'est bien, Rebecca. L'amour, c'est ça. L'amour. On va lire Jean 3,16 et vous allez voir, peut-être ce verset va prendre une autre dimension quand on aura fini cette prédication. Vous connaissez très bien ce texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé, ça veut dire il a parfaitement aimé. Il a pleinement aimé. Il a infiniment aimé. Je ne sais pas si vous rendez compte à chaque fois le qualificatif, ce que ça veut dire. Il a inconditionnellement aimé. C'est un amour parfait dont nous sommes les bénéficiaires. Et quand on parle de Jean 3,16, ne le gardons pas seulement pour les inconvertis. Hein. Il me concerne à moi, Jean 3,16. Dieu m'a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. Au point de donner ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas juste des paroles. Mes enfants, je vous aime. C'est beaucoup plus que des paroles. C'est le don de soi. Dieu a tant aimé, il nous a tant aimé. Dès la création, et même avant la création, Dieu nous aimait déjà. Et même la chute, n'a pas diminué l'amour de Dieu pour sa créature. C'est extraordinaire. C'est inconcevable, humainement parlant. Une telle trahison. Alors que Dieu a créé l'homme, la femme, il leur a donné tout ce qu'il faut pour être heureux. Ils n'ont besoin de rien. Ils sont allés faire la seule chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Et Dieu, en réponse à cela, il manifeste encore son amour puisqu'il parlera de la postérité d'Ève qui va écraser la tête du serpent. Genèse 3,15. dès le départ. Dieu manifeste qu'il aime toujours ses créatures malgré la chute. Qu'en est-il de Jésus ? Jésus, à l'image d'Isaac, qui accepte de monter sur le mont Morija. Isaac, nous le savons, était déjà un jeune homme bien gaillard. Et son père était un vieillard. Et Abraham n'aurait pas pu conduire Isaac sur le mont Morija sans que Isaac soit consentant. Et de la même manière, Jésus a été consentant lorsque son père lui a demandé de quitter le ciel, d'accepter de se dépouiller de sa gloire céleste. Jésus manifeste le même amour que son père pour les créatures, et en particulier pour les perdus. Dans Matthieu chapitre 9, versets 36-38, vous connaissez aussi ce passage. Voici ce qu'il est dit. « Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Bien sûr, ça ne vaut pas pour notre époque où nous avons beaucoup d'ouvriers et qu'on est obligé de dire aux gens « Arrêtez, arrêtez de témoigner, arrêtez d'évangéliser, il n'y a plus personne à convertir. » Non, vous n'avez pas l'air d'accord. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. J'aimerais m'arrêter sur cette expression « ému de compassion ». C'est une expression qui ne peut pas nous laisser insensibles, mes frères et sœurs, ce matin. Ému de compassion, littéralement, dans le grec, ça signifie être touché au plus profond de ses entrailles. Comme si on vous... Excusez-moi, ça va être un peu... On vous tordait les entrailles et que vous ressentiez une telle douleur en voyant les gens qui sont sans berger, qui sont perdus. Cette émotion de compassion, mes frères et sœurs, elle doit nous interpeller ce matin. Parce que la question que je voudrais nous poser, c'est qu'en est-il de nous ? Nous avons parlé de Dieu, de son Fils Jésus, mais nous. Qu'en est-il de nous ? Les apôtres ont pris le relais derrière Jésus pour répondre à la mission qui leur avait été confiée. Cette mission, c'était « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Vous connaissez ce texte dans l'évangile de Matthieu. Et puis, un peu plus tard, Jésus leur dit « Vous serez mes témoins. » Juste avant d'être enlevé au ciel, il leur dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà la mission. Mission rime avec moisson. Paul va nous interpeller et nous exhorter à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cette émotion de compassion, sentiment qui était en Jésus-Christ. Non pas seulement quand il a vu cette foule sans berger, mais bien avant, lorsqu'il était dans le ciel et qu'il lui a été demandé de descendre sur la terre. C'est cette émotion de compassion qui l'a conduit à pouvoir tout abandonner pour venir pour me sauver, moi, un pécheur qui n'en était pas digne. Pierre nous rappelle de son côté que nous avons vocation à être participants de la nature divine. C'est quoi la nature divine ? On vient d'en parler. La nature divine, c'est manifester le fondement de la relation entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Attention, pas mon amour, à moi. Si je compte sur mon amour pour aider les autres, je vais être bien limité. Mais si je vis l'amour de Dieu en moi, l'apôtre Paul nous dit que le Saint-Esprit renouvelle l'amour de Dieu en nous. Si je manifeste cet amour de Dieu, alors je ne pourrai plus jamais croiser quelqu'un qui est sans berger, sans être ému de compassion. Et j'aimerais bien savoir si quelqu'un peut lever la main, en tous les cas pas moi, et dire à chaque fois que je croise quelqu'un qui est sans berger, je suis ému de compassion. Combien de fois je suis allé au supermarché, combien de fois je suis allé dans la rue haute, j'ai croisé plein de gens, sans même penser que peut-être je pourrais prier pour eux en les croisant dans la rue. Ça m'arrive régulièrement de le faire, je vous assure. Hein. Des fois, je suis arrêté au volant, je vois des personnes à côté, dans la voiture à côté, je dis « Seigneur, au nom de Jésus, tu les bénis. On ne s'est pas croisé par hasard aujourd'hui. » Sur le trottoir, même chose. Mais parfois, je vis ma vie et inconscient de tout cela. Peut-être même tu te rends au travail et tu t'es habitué à voir des collègues qui ne connaissent pas le Seigneur. Refuse cela au nom de Jésus. Seigneur, je refuse de m'habituer d'avoir des gens sans berger à côté de moi. Je veux avoir le cœur de Jésus, ému de compassion. Amen. Ça, c'est avoir participé à la nature divine. Celui qui résume le mieux les choses, c'est l'apôtre Jean. Pas étonnant, hein ? On l'a surnommé l'apôtre de l'amour. Voici ce qu'il dit dans, et c'est assez intéressant, dans 1 Jean 3,16. Vous connaissiez Jean 3,16 ? Vous allez connaître 1 Jean 3,16. Ça va peut-être un peu moins vous faire plaisir. Mais en tous les cas, ça va vous engager. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. Ça, c'est beau, hein ? Ça, ça rejoint Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Alléluia. Dieu m'a aimé. Oh, c'est bon. Et c'est bien, hein ? Profitez de cet amour. Mais regardez ce qu'ajoute Jean. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. C'est ça, la résultante de l'amour de Dieu, c'est que va naître en nous un amour qui est prêt à se donner. On parle du sacerdoce universel depuis un moment. On va continuer d'en parler en ce début d'année. Et dans le sacerdoce universel, il y a cette émotion de compassion pour les perdus, parce que les sacrificateurs, que faisaient-ils ? Ils offraient des animaux pour le pardon des pécheurs. Et ils invoquaient Dieu pour que Dieu leur fasse grâce. Ça fait partie du sacerdoce universel. Nous reviendrons là-dessus. Notre amour ne sera jamais aussi fort que celui de Jésus. Que celui de Dieu. Notre sacrifice ne sera jamais à la hauteur du sacrifice de Jésus, et nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices. C'est pas ça qui conditionne le salut des gens. Le sacrifice a été accompli une fois pour toutes. Si nous nous sacrifions, ce n'est pas pour que les gens soient sauvés. Nous nous sacrifions en retour du sacrifice qui a été accompli pour nous. Amen. C'est normal de se sacrifier pour un tel Dieu, pour être à son service, pour entrer dans la mission, celle de la moisson. La Bible nous encourage au travers d'un psaume. C'est un cantique des degrés. Vous savez ce que c'est, cantique des degrés ? C'est les degrés, c'est les marches qui menaient au temple. Et c'est des cantiques, je crois qu'il y a 15 psaumes, qui sont des cantiques des degrés. C'est des cantiques que le peuple chantait quand il montait. À chaque fois qu'il y avait un pèlerinage, une fête, ils montaient les marches du temple et en montant les marches, ils chantaient ces cantiques. Et voici une chose qui est dite dans le psaume 126, verset 5. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen !» Amen, quel encouragement! Oui, c'est vrai, il y a un coût à payer. Il y a un coût à payer. Ne croyez pas qu'en 2023, ce sera l'année de la moisson et qu'on va continuer à faire exactement comme on a fait jusqu'à maintenant. Dans nos petits chaussons, et sans trop se mettre en danger ou en inconfort. Oui, c'est peut-être dans les peines et dans les larmes. C'est peut-être au prix de sacrifices que nous allons vivre cette année pour servir le Seigneur. Mais croyons que nous allons semer et que nous allons revenir en portant les gerbes, en chantant des cantiques d'allégresse. Amen. Amen, c'est l'encouragement. Beaucoup d'entre nous pourraient témoigner. Pour ma part, un des sacrifices que j'ai pu faire pour le Seigneur, c'est donner de mes congés pour faire des camps. Et je peux vous dire que oui, si parfois ça a été difficile, je me souviens de certaines années où on laissait nos enfants, et je me souviens être au bord des larmes au téléphone en écoutant ma petite qui disait « Vous êtes où, papa ?» Et on sentait qu'on lui manquait, c'était difficile à vivre. Des sacrifices faits, mais quelle joie de compter tous ces ados, ces jeunes qui aujourd'hui disent merci. C'est par votre ministère que nous avons pu donner notre vie à Jésus. Faire des sacrifices, ça en vaut la peine, mes frères et sœurs. Je ne veux pas dire ça pour me glorifier, je veux le dire vraiment pour vous encourager. Ceux qui sèment avec larmes récoltent avec allégresse. Dans 15 jours, je serai à Carcassonne pour un baptême où j'ai été invité parce qu'une jeune que j'ai eue en camp se fait baptiser. Et elle voulait qu'on soit présent avec Valérie pour son baptême. C'est une joie. À chaque fois, on dit « Seigneur, mais comment tu es grand ! Comment tu es grand ! Comment tu es puissant ! » Tous ceux qui font des camps savent de quoi je parle. Et même si vous avez été peut-être derrière les fourneaux ou autre, Dieu vous bénit parce que celui qui est en avant, évidemment, c'est celui qui a apporté la parole. Et c'est de celui-là que souvent les ados se souviennent. Mais celui qui a apporté la parole, il n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu toute l'organisation autour. Hein. Donc c'est tous ensemble qu'on se réjouit. Et tout cet honneur, il ne revient pas à une personne. Il revient à tout. Moi, je donne gloire et je remercie tous ceux qui étaient là cette année où cette jeune qui va se faire baptiser était présente. Amen. Jésus nous parle et veut nous encourager. Il veut nous encourager à prendre le relais ce matin. Amen. Vous rappelez la prédication pendant le jubilé de Monsieur Delattre, hein ? Prendre le relais. À la suite de Jésus-Christ, à la suite des apôtres dont nous avons parlé, il y a Ludivine, il y a Isabelle, il y a Hortense, il y a Michel, il y a Winnie, il y a Caroline, etc. Je ne vais pas tous vous citer, sinon ça va être long. Mais tous, on est concernés. Toi aussi, Léana. Toi aussi, Marc-Eli. Tous, on prend le relais de Jésus. Amen. Je conclue avec un texte qui se trouve dans Jacques, chapitre 4, verset 35. C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Et il leur dit ceci. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » C'est un encouragement que le Seigneur veut nous donner ce matin. Regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Je ne sais pas quelle impression vous avez de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Mais nous sommes émerveillés depuis quelque temps, ici dans cette église, de voir que des jeunes adolescents font des démarches spirituelles tout seuls et arrivent ici dans cette église en disant « Je veux qu'on me parle de Jésus. Je veux connaître Jésus. » Plusieurs se sont joints à nous. Des adolescents se réveillent. Amen. Et la moisson est prête, mes frères et sœurs. Les champs sont blanchis et nous devons nous lever. C'est le moment. Les gens nous attendent. Ils ont besoin de réponses. Ils ont besoin de sens à leur vie. Ils ont besoin qu'on leur parle de Jésus, tout simplement. Les disciples de Jésus verront cette parole s'accomplir. Dans les jours qui suivent la Pentecôte, la moisson fut grande. Et encore dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, la moisson fut grande. Et l'Église s'est répandue sur toute l'Asie mineure, le Moyen-Orient. Dieu est grand. Et quand il dit que les champs blanchissent, alors on doit se lever. Parce que évidemment, si juste Jésus avait dit « les champs blanchissent » et les apôtres, ils s'étaient mis sur leur canapé, les doigts de pied en éventail, Il avait dit, Jésus a dit qu'il va y avoir une moisson, donc ce n'est pas la peine qu'on se bouge, hein, ça va se faire puisque Jésus l'a dit. Parfois, j'entends des chrétiens dire ça. Hein. Ce n'est pas la peine qu'on fasse quelque chose. C'est Dieu qui fait tout. Ce n'est pas du tout ce que je vois dans les Écritures, moi. Je vois combien des hommes, des femmes ont été utilisés par le Seigneur de manière puissante et parfois même des anonymes qui ont fait des choses extraordinaires. Amen. Chacun à notre place. Chacun à notre place. Je veux vous encourager. Vous qui travaillez parmi les enfants, ici dans cette église, je vous encourage. Je vous encourage. Vous êtes en train de moissonner. Et le Seigneur va vous donner de voir la récolte. Vous qui travaillez parmi les ados, qui travaillez parmi les jeunes, soyez encouragés. Vous qui témoignez sur vos lieux de travail, dans vos immeubles, dans vos quartiers, soyez encouragés. Amen. Pour 2023, l'Esprit de Dieu veut nous donner la vision de ces champs. Pardon, c'est mal écrit les champs, mais c'est pas grave. De ces champs qui blanchissent. On est d'accord ? Dieu veut nous donner la vision de ces champs qui blanchissent. Ici à Colomiers, ici à l'île Jourdain, ici dans tous les villes et villages qui entourent Colomiers, où vous habitez les uns les autres et où vous êtes responsables de la moisson là où vous êtes. Prions pour la réunion à Colomiers, la réunion à Pibrac. Prions pour toute la région de Grenade, le Burgos. Prions pour toutes ces villes périphériques de Colomiers, Plaisance du Touche, La Salvetat-Saint-Gilles, Cornebarieux, etc. Tournefeuille. Oh, le travail qu'il y a à faire, les frères et sœurs. Hein ? Il y a beaucoup de travail, il y a peu d'ouvriers. Et il faut vraiment que nous prions pour que des ouvriers se lèvent. Mais attention, si nous prions pour que des ouvriers se lèvent, ça veut dire que ça va être nous. Hein. Ça va être nous. Ce n'est pas la peine de prier pour que les autres se lèvent. Parce qu'on n'est plus dans le sacerdoce universel. À une époque, oui, on priait pour que les autres, pour que Dieu envoie des grands leaders sur Israël, etc. Aujourd'hui, c'est chacun de nous. Chacun de nous qui a reçu l'Esprit Saint, l'onction pour être des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble ? Que le Seigneur puisse vraiment nous donner la vision des champs qui blanchissent. Que nous soyons prêts à nous lever pour la moisson. Amen. Que le Seigneur nous encourage et nous bénisse. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce défi que tu nous lances en ce début d'année. Seigneur, nous voulons rentrer dans la moisson. Nous sommes avides de nous réjouir de la récolte que tu vas nous donner. Seigneur, je veux t'offrir ma vie en sacrifice. Pour que même si je dois moissonner dans les larmes, Seigneur, je puisse penser à ce temps où je me réjouirai en portant les gerbes. Oh, merci Seigneur, oui, à toi la gloire. Bénis cette église, Seigneur. Que cette église se lève, que tous ceux qui dorment se réveillent, que ceux qui sont restés de côté puissent s'engager, que chacun puisse être renouvelé et victorieux dans ses épreuves, tout ce qui empêche de te servir d'avancer, que tu puisses libérer de toutes ces addictions, toutes ces choses qui empêchent que ton royaume avance dans les vies. Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Tu connais la vie de chacun d'entre nous. Et tu peux, toi, faire une prière spécifique pour chacun d'entre nous. Moi, je ne sais pas qui est concerné par la prière que je viens de faire. Ceux qui dorment, ceux qui ont besoin, ceux qui ont ceci, cela. Je ne sais pas qui. Mais toi, tu sais. Et Seigneur, tu es le bon berger. Tu aimes tes brebis. Tu es ému de compassion, même en nous voyant alors que nous avons un berger. Tu nous aimes. Et tu ne laisses pas une brebis s'égarer. Et tu es tellement, tellement ému de compassion pour les perdus que tu peux laisser les 99 brebis juste pour aller chercher celle qui s'est égarée. Seigneur, nous voulons travailler à cela ensemble, avec toi, pour la gloire de ton nom et pour voir ton règne venir. Amen. 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 À Dieu soit la gloire. Il est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Amen.